et dit à son jeune serviteur, « Monte donc, regarde du côté de la mer. » Celui-ci monta, il regarda et dit, « Il n'y a rien. » Élie dit sept fois, « Retourne. » À la septième fois, il dit, « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer. Il est comme la paume de la main d'un homme. » Élie dit, « Monte dire à Acab, attelle et redescends afin que la pluie ne t'arrête pas. » De toutes parts, le ciel devint noir de nuages, le vent se leva, et il y eut une forte pluie. Acab monta sur son char et partit pour Jizréel. La main de l'Éternel fut sur Élie qui mit une ceinture à ses reins et courut devant Acab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Amen. Ce texte est glorieux. Nous sommes dans une période compliquée de l'histoire d'Israël, puisque le roi qui est à la tête, c'est Acab, un homme qui, contre toute apparence, est relativement faible et qui est marié avec une femme qui s'appelle Jézabel et qui est une femme complètement impie, idolâtre, méchante et violente. Et Dieu, à un certain moment de cette histoire, va décider que pour mettre une forme de discipline sur Israël et pour inverser le cœur d'Akab et inverser surtout le cœur du peuple qui marchait à la suite d'Akab, va décréter une famine. Et c'est Élie qui, quelques temps plus tôt, 3 ans et demi plus tôt avant ce passage, va aller trouver Akab et va lui dire, écoute, il ne pleuvra plus en Israël jusqu'à ce que Dieu l'ait décidé. Et nous sommes à la fin de cette étape, nous sommes à la fin de ce laps de temps, de cette décision. Et là, nous voyons deux attitudes qui sont complètement différentes. La première, c'est devant une famine qui sévit, devant les souffrances du peuple, un roi qui va ripailler. La seconde, c'est l'attitude d'Élie, qui devant la souffrance du peuple, la famine qui sévit dans le pays, va prier. Quel contraste! Quel contraste! Nous y reviendrons en conclusion. Ce passage est glorieux. Imaginez-vous que vous puissiez décider de la pluie et du beau temps. Fabuleux! Vos rosiers ne souffriraient plus, vos plantes, vos jardins seraient luxuriants. Ça serait tout à fait extraordinaire. Ça serait quelque chose de fabuleux. Et Élie va prier pour que la pluie cesse, et Élie va prier pour que la pluie revienne. Et dans les deux cas de figure, Dieu va l'exaucer. L'auteur, l'épître de Jacques, nous dira que Élie était un homme de la même nature que nous. Deux bras, deux jambes, un cœur, et nous voyons dans son histoire qu'il a eu des moments forts comme il a eu des moments faibles, il a eu des grands succès comme il a eu des grands coups de moins bien, puisqu'il a même demandé la mort à Dieu alors qu'il était sous son genêt. La même nature que nous, et pourtant, il va avoir la possibilité de décider du temps qu'il va faire. Extraordinaire. Fabuleux. Et Jacques se sert de cet exemple pour expliquer que la prière du juste a une grande efficacité. Et nous croyons que notre prière a une grande efficacité. Je crois que lorsque je prie, les choses bougent. Je crois que lorsque je prie, les choses changent. Je crois que lorsque je prie pour mon fils, pour ma fille qui est inconvertie, les choses se passent dans son cœur. Je crois que lorsque je prie pour mes difficultés au travail, des choses bougent dans le cœur de mes collègues, bougent dans le cœur de mes clients. Je crois que lorsque je prie, des choses bougent dans les lieux célestes et que l'étreinte spirituelle qui est sur notre ville, est desserrée. Nous le croyons. Parce que la parole de Dieu l'affirme. C'est une réalité. Simplement, nous aimerions vivre de manière plus consciente et de manière plus, tactile, plus concrète, cette puissance de la prière. Et nous allons voir au travers de ce récit, c'est que la prière d'Élie a été efficace. Parce qu'elle a suivi un certain processus, un certain chemin. Et que finalement ce chemin est peut-être bien loin de la conception que nous nous faisons nous-mêmes de la prière. Première chose que l'on voit dans l'attitude d'Élie, la première étape, c'est l'étape de la conviction. Il y a plusieurs types de prières. Il y a nos prières quotidiennes qui sont tout à fait bonnes. Seigneur, tu bénis papa, tu bénis maman, tu bénis la nourriture, tu bénis cette journée. Amen. C'est bien. Il faut le faire. Il faut remettre nos besoins à Dieu, il faut remettre nos familles à Dieu, C'est une bonne chose. À partir du moment où cela sort du cœur, à partir du moment où cela émane de notre être et que ce n'est pas une simple récitation. Puis il y a une deuxième prière et c'est vraiment une prière la prière d'intercession. C'est ce que va faire Élie. C'est-à-dire que cette prière, elle est donnée à un homme, elle est donnée à une femme qui reçoit un fardeau de la part de Dieu, qui reçoit un poids de la part de Dieu et qui va se tenir devant Dieu. Le Saint-Esprit va mettre sur le cœur d'Élie de prier pour que la pluie revienne. Pourquoi ce moment-là? Peut-être était-ce parce que c'était après le Carmel? Pourquoi ce moment-là? Peut-être était-ce parce que Élie avait pris conscience d'une manière bien particulière de la souffrance de son peuple? On ne le sait pas. Peut-être était-ce Dieu qui le lui avait dit, voilà, c'est terminé, Élie, la famine doit s'arrêter, la pluie doit revenir. Nous ne le savons pas. De la même manière que nous ne savons pas pourquoi, à certains moments, nous sommes poussés à prier pour certaines situations, pour certaines personnes, pour certains problèmes. Mais on peut être certain d'une chose, c'est que si Élie va agir comme il l'a fait, et nous allons détailler son attitude, c'est parce qu'il a eu sur son cœur une conviction profonde. Il a eu sur son cœur le fait que c'était une nécessité absolue de prier pour cela. Dites-moi, mes frères et sœurs, nous sommes de la même nature qu'Élie, et nous pouvons penser que Dieu veut nous donner les mêmes choses qu'à Élie. Et que nous sommes appelés à faire la même chose qu'Élie. Je crois que autant qui que nous soyons, peu importe, à partir du moment où nous tenons dans la présence de Dieu, à partir du moment où nous cherchons la face du Seigneur, où nous laissons nos prières être inspirées par le Saint-Esprit et sortir un petit peu de cette liste de récitations, eh bien Dieu mettra sur nos cœurs des fardeaux, des convictions profondes. Qui est nécessaire de prier pour un tel, pour une telle, qui est nécessaire de prier pour notre pays. Lors du temps de jeûne et prière que nous avons eu le vendredi matin, il y a eu, je ne sais pas si c'est doctrinal, mais je vais le dire quand même, un esprit d'intercession. Tout d'un coup, alors que c'était un temps relativement calme, l'Église s'est enflammée. Et tout le monde, sans se concerter, s'est mis à prier pour la France. Je n'avais jamais vécu un moment aussi fort que celui-là. Centaines de personnes qui, ensemble, après 4 jours sans manger, se sont levées ensemble et ont intercédé pour la France. Saint-Esprit a saisi. Saint-Esprit a visité. Une profonde conviction est déposée sur le cœur d'Élie pour que la pluie revienne. Et je pense que la base de la prière, c'est ça. La base de la prière, c'est l'amour. La base de la prière, c'est l'empathie. C'est ce phénomène qui fait que, tout d'un coup, l'Esprit de Dieu nous colle et nous fait ressentir la souffrance, nous fait ressentir le besoin. Nous fait ressentir les maux de quelqu'un, la gravité d'une situation. Et cela parce que nous sommes des hommes et des femmes responsables devant Dieu, nous pousse à genoux. Nous pousse à genoux. Et bien des situations sont débloquées parce que des hommes et des femmes, à certains moments, eh bien, ont été poussés à genoux, tout comme Élie a pu l'être. Que se serait-il passé si Élie avait dit, écoute, il fait 3 ans et demi, ça peut bien attendre 6 mois, d'accord? J'ai autre chose à faire, là, j'ai la situation du Carmel à gérer, j'ai d'autres priorités. Que se serait-il passé si l'évangéliste Philippe, alors que le Saint-Esprit lui a mis à cœur eh bien, d'aller retrouver cet eunuque éthiopien sur le chemin de Damas, avait dit « Attends, j'ai un réveil qui est en train de se dérouler en Samarie là, c'est pas logique, donc je vais rester là, d'accord ? Et puis tu vas envoyer quelqu'un d'autre, un petit stagiaire. Un petit stagiaire, il y a des nouveaux convertis, ils feront bien l'affaire. Hein » Non, il s'est retrouvé sur un chemin désert avec un homme, un notable d'Éthiopie, qui était là perdu en lisant le livre du prophète Ésaïe. Et on peut penser que cet homme, qui est reparti tout joyeux, a annoncé l'évangile là où il est rentré. Et Philippe, on peut remarquer également qu'il n'est pas retourné en Samarie, mais il a continué à évangéliser les pays, les villes qui étaient aux alentours. Frères et sœurs, notre disposition de cœur permettra au Saint-Esprit de déposer en nous des fardeaux. Si je prie pour vous, vous priez pour moi. Si nous sommes disponibles les uns les autres pour prier les uns pour les autres, alors le peuple de Dieu sera sacrément fort, sacrément solide. Et l'Église sera réellement bâtie sur un rocher fort. Donc la première chose, c'est qu'Élie a eu cette conviction sur son cœur. La deuxième chose, la deuxième étape, c'est qu'il a eu une attitude de foi dans la prière. Quelles sont les preuves ? Il va annoncer à Acab que la pluie vient. Hein ? Régale-toi, hein ? La pluie vient. Ouvre les conserves. Et la deuxième est encore plus marquante, puisque on va retrouver le prophète à genoux, la tête entre ses genoux. Alors, cette attitude peut être interprétée de deux manières différentes. La première, c'est une attitude d'adoration. Pourquoi pas ? Mais la seconde que j'ai trouvée et qui m'a beaucoup plu, c'est de dire que Élie est dans la position d'un homme qui s'attend à voir la gloire de Dieu. Et nous savons que dans l'Ancien Testament, il était impossible de regarder Dieu face à face. Lorsque Moïse va dire dans le livre de l'Exode à Dieu, « Eh bien, fais-moi voir ta gloire !» Qu'est-ce que Dieu va lui dire ? Lui dire, « Écoute, je veux bien, Moïse, mais tu vas te tenir là sur le rocher. » Et puis, je vais passer par derrière. Et puis, je vais te cacher au creux du rocher. Et là, la paume de ma main va s'arrêter. Et je vais te caresser. Et tu me verras uniquement de dos. Parce que personne ne m'a vu face à face. Et Élie est dans cette attitude, eh bien, de l'homme qui est dans cette position de foi de dire, je vais voir quelque chose. Je vais m'adresser à mon Dieu, donc je vais voir quelque chose. Et nous pouvons être certains que nous, sous l'ancienne alliance, eh bien, notre Dieu est celui qui est tout-puissant, qui règne éternellement et qui fera infiniment, au-delà de ce que nous pouvons demander et espérer. Et je crois que lorsque je prie, je vais voir la gloire de Dieu. Je crois que lorsque je prie pour quelqu'un qui est malade, eh bien, je vais voir la gloire de Dieu. Nous croyons que lorsque nous prions pour, eh bien, des hommes et des femmes qui se perdent, nous allons voir la gloire de Dieu. Nous sommes dans cette position, eh bien, où nous nous attendons à voir notre Seigneur agir. Nous sommes dans cette position où nous sommes certains qu'il va se passer quelque chose, parce que Dieu a mis sur notre cœur une conviction. C'est pas un délire? Mais si Dieu a mis sur nos cœurs un besoin, ça veut dire que sa volonté, c'est de le résoudre. Et de ce fait, nous sommes certains qu'il va agir. C'est une évidence pour nous. Et là, le prophète, il voulait se protéger en quelque sorte de la manifestation de la puissance de Dieu. Alors il va envoyer son serviteur vérifier. Le pauvre, j'aurais pas aimé être à sa place. Fallait grimper, hein, sur la montagne. Première fois. Et vous pourrez remarquer que Élie lui dit, regarde du côté de la mer. Le serviteur va regarder du côté de la mer. C'est l'endroit d'où les nuages viennent d'habitude. C'est quelque chose qui est logique. Trop souvent, mes frères et sœurs, c'est une petite parenthèse que j'ouvre et que je vais refermer rapidement. Notre structure mentale et notre structure spirituelle est faite de telle manière qu'on s'attend toujours à voir Jésus intervenir de la manière dont on ne s'y attend pas. Donc, on n'attend pas à voir venir les nuages du bord de la mer, mais on l'attend du côté des terres. Il va forcément faire comme je ne m'y attends pas. Ben pourquoi ? Pourquoi ? Ben non, le nuage va venir du côté de la mer. Ensuite, ils viendront de toutes parts. Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que Dieu prendrait un malin plaisir à nous surprendre systématiquement ? Soyons logiques. Et donc, ce brave serviteur, il va monter, et lui également, il va faire preuve d'obéissance et de foi. Et c'est la caractéristique des hommes et des femmes de prière. Première attitude, une prière efficace, une conviction qui est placée sur notre cœur, d'un besoin. Deuxième, nous prosternons, nous nous tenons dans une attitude de foi qui débouche sur la troisième étape, qui est une attitude persévérante. Une attitude persévérante. Cette foi. L'Évangile et le Nouveau Testament nous demandent d'être persévérants. Matthieu, chapitre 7, verset 7. Demandez et vous recevrez. Frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Allez-y! Si on ne vous donne pas lorsque vous demandez, ben frappez, puis recevez, et puis ensuite cherchez. Mais persévérez. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 18 et au verset 1er, Jésus va donner cette parabole afin de montrer qu'il faut toujours prier. Cette parabole de la veuve et du juge inique. Cette veuve qui va dire, eh bien, même si ce juge est mauvais, je vais tellement lui casser les pieds qu'il va forcément m'exaucer. Alors Dieu n'a rien à voir avec un juge inique. De grâce. Et ce n'est pas en assiégeant le trône de la grâce, on n'a pas assiégé le trône de la grâce, le trône de la grâce est un trône ami. Ce qu'on assiège, ce sont des trônes ennemis. Et nous allons voir un petit peu la différence. Que l'on obtiendra forcément des bénédictions. Mais, il n'en reste pas moins que Jésus nous demande de prier avec persévérance. Alors, on peut se demander pourquoi une telle attitude. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi? Parce que quand on regarde un petit peu nos textes, nos écrits, Dieu serait-il sourd pour que l'on ait besoin de crier afin qu'il nous entende et lui répéter 15 000 fois les mêmes choses? Non. Dieu ne serait-il pas un père aimant? Bien sûr que si. Prends soin de nous. Avant même qu'on lui demande quoi que ce soit, il sait déjà ce qu'il nous faut, nous dit la parole de Dieu. Est-ce que nous pouvons forcer le bras de Dieu et l'obliger à faire quelque chose s'il n'en a pas envie, à force de lui casser les pieds? Est-ce que vous le pensez? Non. Nous avons vu la fois dernière que le seul qui ait réussi, c'était Ézéchias, et que cela ne lui a pas été profitable. Alors pourquoi? Nous savons bien sûr que nous ne sommes pas toujours exaucés immédiatement. Et c'est logique, puisque nous faisons partie d'un grand échiquier où certains ont besoin de pluie quand d'autres ont besoin de sécheresse. Alors qui est-ce que Dieu doit écouter en priorité? Ceux qui ont besoin de pluie ou alors ceux qui ont besoin de sécheresse? En Bretagne, on aimerait plus de soleil, tandis que dans le Sahara, ils aimeraient un peu plus de pluie. Qui Dieu doit-il écouter? Parfois, si Dieu nous donne ce qui nous est nécessaire, ce qu'on lui demande, peut-être que ce sera d'autres qui en pâtiront. Peut-être que ce n'est pas le moment et qu'il nous donnera un fruit trop vert dont on ne pourra pas tirer toute la quintessence. Pourquoi tout cela? Pourquoi Dieu nous demande-t-il de prier avec persévérance? Tout simplement parce que quand je prie avec persévérance, il se passe la même chose qu'Élie. C'est que tout d'un coup, il y a une conviction qui gère en moi. Mais ce n'est pas la conviction de départ, mais c'est une qui était basée sur un besoin, mais c'est une conviction qui est basée sur le fait que Dieu va m'exaucer. Tout d'un coup, je sens comme une assurance, comme une espérance, et c'est la foi qui naît dans mon cœur. Que la chose que je ne vois pas, Dieu me l'accordera. De la même manière que lorsque le jeune serviteur est revenu voir Élie, et lui a dit, il y a bien un truc qui vient là, mais c'est pas plus gros que la pomme d'une main. Eh bien, ce signe a validé la conviction qui était née dans le cœur d'Élie, et qui lui a fait dire, va dire à Acab qu'il se dépêche, parce que la pluie va venir. Je me souviens de cette fois où j'étais allé prier, où un homme chrétien était quasiment sur son lit de mort. Alors j'avais fait comme tous les serviteurs font, on jeûne et on prie dans ces cas-là. J'étais reparti de l'hôpital, puis je continuais à prier pour lui. Et tout d'un coup, l'Esprit de Dieu qui me dit, cette conviction dans mon cœur, il est guéri, maintenant, prie pour autre chose. Comme une évidence, comme quelque chose de certain. Et le lendemain, sa femme de m'appeler me dit, on ne comprend pas, tout est redevenu normal. Je lui dis, c'est normal. cette conviction qui naît sur nos cœurs. Parce qu'on est passé dans l'atelier de la prière, où nous avons été cette argile qui a été façonnée par l'Esprit de Dieu, et une conviction profonde. Et si Jésus nous demande de persévérer, c'est afin que cette conviction s'affirme dans notre cœur. C'est afin que cette conviction s'affirme dans notre être. Et que nous puissions nous lever, et même si nous ne voyons pas la pluie venir sur notre vie, que nous puissions avoir l'assurance qu'elle viendra. Et ainsi, chaque fois que nous repenserons à notre famine, famine familiale, famine spirituelle, ou peut-être famine professionnelle, peu importe, chaque fois que nous verrons cette difficulté, eh bien, au lieu de prier, nous regarderons à notre conviction et nous louerons Dieu en disant « Seigneur, tu vas agir, j'en suis certain, parce que ça bout dans mon cœur. Tu as mis cette conviction-là. » Et nous nous tiendrons dans cette position de foi qui est la quatrième étape. Élie, dans la deuxième, était dans une attitude de foi. Là, il va se trouver dans une position de foi. La pluie n'est pas là, mais il viendra. Et c'est facile de rapprocher ce texte de l'épisode que l'on trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 11, qui est pour Lazare, la résurrection de Lazare. Jésus va attendre 4 jours avant d'aller ressusciter son ami. Puis, pendant tout ce périple, il va voir Marthe, il va voir Marie, auquel il va partager « Je suis la résurrection et la vie ». Jésus ne s'est pas précipité. Pourquoi ? Il avait une conviction dans son cœur. Il savait ce qu'il allait faire. Alors que tout le monde pleurait, il a demandé qu'on l'emmène au tombeau. Devant le tombeau, il a ôté, demandé à ce qu'on ôte la pierre. On a ôté la pierre après lui avoir dit « Mais ça sert à rien, ça fait 4 jours, il sent déjà. » Ôtez-la quand même. Et puis là, il va élever la voix, il va dire « Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces, toujours. » Il savait ce qui allait se passer. Le Père avait déjà mis dans le cœur du Fils la conviction que son ami Lazare allait ressusciter. Lazare, sors! Et là, le mort qui sort avec ses bandelettes, allez, il est ressuscité, maintenant faites votre boulot, déliez-le. Jésus avait la conviction. Et tout ça parce que ça a été mûri dans son cœur. De la même manière que ça a été mûri dans le cœur du prophète Élie. Mais entre tout ça, il y a eu la persévérance. Au bout de combien de fois nous serions-nous arrêtés? Dieu met cette conviction dans notre cœur. Voilà. Il a plu depuis 3 ans et demi, il prie pour qu'il pleuve. Alors, on y va, nous, on se prosterne. Puis, Seigneur, tu fais pleuvoir. Tu vas voir. Il ne se passe rien, 2 fois, 3 fois. Bon. J'ai dû me tromper dans ma conviction. Hein. Je vais retourner voir si j'arrive pas trop à manger quand même. Hein. J'aurais peut-être fait ça, même sûrement. Persévérance dans la prière. Si Dieu t'a mis à cœur un sujet, t'as mis à cœur ton mari, t'as mis à cœur ta famille, t'as mis à cœur un pays, t'as mis à cœur une situation, t'as mis à cœur un besoin, eh bien, tiens-toi dans la prière, que ce fût 7 heures, 7 jours, 7 ans, 7 vies. Ce n'est pas possible, ce n'est pas doctrinal. Persévère. Persévère. Si tu as la conviction que tu es celui ou celle qui est choisi pour ce problème par l'Esprit de Dieu, qui sonde le cœur du Père, persévère. Attache-toi à cette tâche. Reste dans cette attitude de foi. Et quand la conviction sera là, alors passe dans cette position de foi qui fera que ce ne sera plus simplement un petit nuage qui s'approchera, mais que ce sera des nuages noirs qui viendront de toutes parts et que tout le pays sera irrigué. Ça va? Les quatre étapes sont claires? En conclusion, la pluie va venir avec abondance et d'une manière violente. Je crois qu'il en est de même pour notre pays de France, pour notre ville de Nantes. Je crois que le Seigneur veut faire pleuvoir une pluie de grâce et qu'il veut ouvrir les écluses des cieux. Et que des hommes et des femmes, par dizaines, par centaines, eh bien, auront le cœur irrigué par la puissance et par la vie qui émane de la résurrection de Jésus. Persévérons. Ne baissons pas les bras. Tu as commencé à prier. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Mais laisse-toi façonner au travers de tout cela. Deuxième chose, qui sommes-nous? Quelle est notre nature? Il y a un problème devant nous? Sommes-nous des Élie qui allons nous tenir à genoux, prosternés? Ou bien sommes-nous des Acab qui allons attendre que l'autre le fasse en mangeant et en buvant, c'est-à-dire en profitant des privilèges qui sont les nôtres? Ouf, ça dérange, hein, excusez-moi, je ne recommencerai plus. Jusqu'à la prochaine fois. Concrètement, je me pose la question pour ma propre vie. Pour moi-même. Qui suis-je? La pluie va venir, Acab. Très bien, tu t'en occupes. Moi, je vais manger, je vais boire. Ça correspond mieux à ma nature. Je laisse planer le silence. Mais je pense que c'est bon de se poser la question quand même et de réfléchir en soi-même. Troisième axe. Eh oui, la prière efficace a des règles, qui sont des règles qui sont par nature divines, mais qui a des conséquences qui sont extrêmement intéressantes. Puisque une fois que la conviction de l'exaucement est sur notre cœur, nous pouvons vivre la difficulté dans le repos. Cette position de louange en disant « Seigneur, le problème n'est plus devant moi, il est devant toi. Je sais que tu vas poser ta main. Tu me l'as promis. Je l'ai sur mon cœur. Je sais que tu vas poser ta main. » Ce qui fait de nous, eh bien, des hommes et des femmes avec un cœur léger, qui vivons et qui entrons pleinement dans le repos de Dieu. Persévérons. Persévérons. Et persévérons encore. Attachons-nous grandement à ces choses-là, parce que eh bien, la prière est une arme spirituelle, et comme toutes les armes spirituelles, elle est puissante. Elle est puissante, que son nom soit béni. Amen.